cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour.
Alors vous venez de publier chez Virgin Classics un album de concerto suspense pour violoncelle, étonnant, de Dvorak, pour on va dire la partie la plus connue, et une face B, même si les faces A et les faces B n'existent plus, un concerto de Victor Herbert. Donc vous avez peut-être commencer par nous expliquer ce projet, j'allais dire un peu discographique, avec un concerto assez connu qui a été énormément enregistré et un autre peut-être moins connu.
Alors oui, bien sûr, tout d'abord le Dvorak qui est probablement le concerto, qui est un concerto mythique bien sûr pour le violoncelle, un concerto dans lequel le violoncelle est traité de manière probablement un peu différente des autres concertos. Dans cette œuvre, le violoncelle est vraiment... a vraiment un rôle assez majestueux, presque comme un héros. Le violoncelle est très héroïque dans cette pièce. Alors, vous allez me dire pourquoi enregistrer ce concerto qui est probablement le plus important du répertoire, si jeune. Alors, c'était ni une question de calcul, ni la maison de disques qui me l'a imposé. C'était tout simplement une rencontre avec Paavo Järvi. On jouait ce concerto avec le Philharmonique de Munich il y a presque 2 ans maintenant, à Munich. Et à la fin du concert, c'est vrai qu'il y avait une telle osmose pendant le concert avec Paavo. J'ai tout simplement dit, mais ça serait génial qu'on l'enregistre ensemble. Et il m'a dit, ouais, ça serait vraiment génial. On a appelé Alain Lanceron, et puis voilà, le projet était lancé. Je pense que tout projet musical doit partir d'une réelle rencontre avec les partenaires, mais à la base, le projet doit être musical. Alors évidemment, après, ça se développe. Je trouve que pour partager la musique, pour donner quelque chose, on a besoin de la ressentir et de ressentir des choses particulières pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on a à dire. Donc voilà, c'est parti de ce concert. Pourquoi coupler ce concerto de Dvorak avec le concerto d'Herbert? Effectivement, Victor Herbert, qui est un compositeur vraiment méconnu, même des violoncellistes. Alors là encore, c'était pas du tout de se dire, bon, Dvorak, on va essayer de le coupler avec peut-être un concerto moins connu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est un concerto, moi, j'ai découvert quand j'avais, je pense, 11 ou 12 ans, et que j'ai tout de suite adoré, que j'ai travaillé au Conservatoire de Paris avec Philippe Muller, et puis après je l'ai joué en concert, j'ai d'ailleurs joué les deux concertos dans le même concert, Dvorak et Herbert, donc ça fait longtemps que je connais ce concerto. Et alors pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez, Victor Herbert était violoncelliste, c'était un contemporain de Dvorak, il admirait beaucoup Dvorak, Victor Herbert composait, il a travaillé aussi à Broadway un peu, donc voilà, influence... Et puis, violoncelliste. Donc, il a écrit un premier concerto dont on a perdu un peu les traces. Il existe un enregistrement, mais qui n'est plus édité, je crois. Et puis, ce deuxième concerto. Et alors, il a été joué en concert. Je crois que c'était pour la première audition. Et Dvorak a entendu ce concert. Et il a dit à Herbert, à la fin, ça sonne merveilleusement, un concerto avec cet instrument, le violoncelle. Ça me donne envie d'écrire moi-même un concerto pour violoncelle. Voilà, donc c'est... Il y a un lien entre ces deux œuvres, même si, bien évidemment, d'un point de vue composition, on ne compare pas. L'un est un compositeur absolument génial, qu'on connaît, et l'autre est un violoncelliste. Alors, en même temps, c'est une œuvre très légère, c'est une œuvre vraiment écrite par un violoncelliste pour des violoncellistes, donc virtuosité, romantisme, mais c'est une œuvre, enfin, moi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup.
Alors pour le Dvorak, justement, le travail avec Paavo Järvi, comment ça s'est passé au niveau de l'approche, parce que vous dites que c'est une œuvre que vous vous avez étudié jeune, enfin que vous jouiez déjà depuis longtemps, ou, et comment ça s'est passé éventuellement justement avec lui au niveau, il y a eu cette, donc ce concert, il y a eu la décision éventuellement de l'enregistrer. Qu'est-ce que vous pensez que lui a apporté, et justement quels étaient peut-être, est-ce qu'il y avait des pièges justement de par le fait, de par cette position du violon, vous avez cité le mot héroïque, etc. De, comment on, comment se fait le corps à corps avec le avec l'orchestre?
Alors tout d'abord, je pense que les pièges dans ce concerto, comme vous disiez très justement, c'est un concerto qu'on a tous les violoncellistes, beaucoup joué, travaillé, retravaillé, avec les différents professeurs avec lesquels on a étudié au conservatoire, des concertos qu'on a la plupart du temps joué en concours. C'est drôle, j'ai retrouvé il y a quelques temps, c'est le premier concerto que j'ai joué en concert. Et en même temps, tous les plus grands l'ont enregistré 2, 3, voire même 4 fois.
Pas,
voilà.
5-6 fois, je crois.
Voilà. Donc, on a entendu énormément de choses. On a aussi ces habitudes un peu de violoncelliste qu'on a entendues. Alors, probablement, une des plus grandes difficultés, c'est d'essayer de se détacher un peu de tout ce qu'on... En même temps, c'est important d'avoir...
Il y a presque une surdocumentation, finalement, sur la...
Oui et non. Oui, c'est probablement ces habitudes en fait qu'on entend depuis qu'on est si jeune, et finalement on se met à faire des choses qu'on a entendues sans savoir pourquoi. Donc première difficulté, je pense, c'est en même temps de garder ces informations parce que c'est important, mais de s'en détacher, d'avoir une vision pas nouvelle, pas de dire ok je vais faire quelque chose de nouveau, c'est pas le but, mais d'essayer de dire ce qu'on a envie de dire, mais sans vraiment par rapport au texte et à ce que Dvorak a écrit. Bien sûr, après, c'est ce qui fait la richesse. On a tous des choses différentes, on lit tous une partition différemment. Mais ça, je pense, c'est la première difficulté. Et puis, effectivement, après, c'est... alors oui, le caractère héroïque, majestueux, mais c'est un concerto très, très long. Donc, c'est presque une symphonie. Presque une symphonie pour violoncelle et orchestre. Donc, oui, probablement, difficulté d'unité de tempo et de garder cette grande ligne... On a cet outil incroyable au début qui dure, je sais pas, entre 3 et 4 minutes. C'est très très long. Et puis tout d'un coup, l'entrée du violoncelle. Un deuxième mouvement vraiment très intime avec ce dialogue, tous les instruments avant, les bois, clarinette au bois. C'est vraiment des caractères très différents. Et puis le final, finalement, avec ce thème un peu plus folklorique. Et puis, alors, avec Pavot, en même temps, c'est pour ça qu'on avait ce sentiment à la fin de ce concert à Munich de vouloir l'enregistrer ensemble, parce qu'il y avait une telle facilité, pas dans les questions ni techniques ni d'ensemble, mais de connexion, de relation entre nous sur scène, de communication, voilà, c'est le mot que je cherchais, et on allait dans la même direction. Donc ça, c'était un sentiment vraiment génial. Alors en même temps, c'est vrai, quand on a fait l'enregistrement, c'est pas parce que on avait fait un bon concert à Munich que voilà, tout d'un coup.
Parce que justement, il n'y avait pas le stress en se disant on va pas réussir à retrouver peut-être cette magie.
Alors effectivement, j'y ai pensé. J'y ai pensé avant l'enregistrement en me disant j'espère que. Il n'y a pas de raison quand ça marche,
ouais, non,
quand
sûr,
on s'entend musicalement, mais c'est vrai que je m'étais dit j'avais un tellement bon souci quand on a des souvenirs tellement.
Joli parfois.
Voilà, géniaux, et puis on réécoute pas forcément, mais. Et donc voilà, effectivement, j'avais un tout petit peu d'appréhension par rapport à ça. Et on a retrouvé cette même complicité, mais bien sûr qu'on a travaillé après dans cette direction. Et donc en même temps, une vraie connivence, une vraie complicité, beaucoup de communication dans la musique. Et en même temps, parfois des idées différentes. Alors il y a deux, trois endroits où, bon, on discutait, on n'était pas forcément... Là, je parle de détails, vraiment de petites choses, mais c'était vraiment intéressant parce qu'on a essayé des choses, on est allé dans certaines directions, et puis finalement en se disant, bah non, peut-être c'est pas une bonne idée. On a essayé des choses, vraiment, on a tenté de. Je dirais pas des nouvelles expériences, mais d'essayer aussi de jouer ce concerto qui a tellement été joué, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'allais dire avec simplicité, c'est pas forcément le bon terme parce que ça peut être péjoratif aussi, mais d'essayer de trouver cette pureté de la ligne, ces lignes qui sont tellement longues, et en même temps de trouver ce son propre à ces grandes thématiques héroïques, et voilà, j'espère que ça s'entend.
Vous avez travaillé avec de nombreux chefs, lui, sur cet enregistrement, ce que vous avez déjà fait avec lui, qu'est-ce qui vous apporte, vous avez donc cité ces discussions, etc. Mais dans votre approche musicale, dans votre rapport à l'orchestre, etc., quelles sont un peu ces spécificités vous trouvez par rapport à vous, dans sa manière de travailler?
Je pense que dans ce concerto, déjà, ce qui m'a vraiment impressionné, justement, je reviens toujours à ce premier concert, parce que ce projet est né finalement après ce concert, c'était sa respiration. Il respire vraiment avec vous. Et y a vraiment un lien très fort. C'est pas évident, parfois la connexion se fait, mais il n'y a pas forcément la même respiration, quand on a ces longues phrases justement de... On parle souvent de questions de timing dans une phrase, mais c'est tellement important, et parfois ça se joue à rien du tout, mais là, cette respiration, j'avais l'impression qu'on respirait ensemble. Et on a... Alors je reviens au son, parce que vous me demandez ce qui m'a apporté. Alors, par rapport au son, c'est vrai que... trouver ce son justement majestueux, mais sans forcer, sans avoir quelque chose de brutal ou de violent, mais en même temps il y a de la violence dans certains passages, hein. mais trouver ce arriver à trouver ce finalement à la fois ce calme intérieur, mais ce côté majestueux, et il a beaucoup travaillé, de notamment le premier tutti par exemple avec l'orchestre, le son. Et c'est vrai que moi j'ai énormément appris aussi, pour rien que l'entrée du violoncelle, il m'a pas dit joue comme ça, mais rien que le fait de travailler par exemple ce premier outil sur le son et comment façonner cette première ligne et jusqu'à l'entrée du violoncelle, finalement c'est tellement inspirant qu'après ça vient tout seul en fait. C'est vraiment c'est tellement important, et en même temps c'est ni systématique ni toujours immédiat avec certains chefs, et voilà. Puis ça c'est comme dans la vie, on s'entend pas forcément avec tout le monde, parfois c'est moins facile, moins rapide, mais une grande complicité.
Centaines d'enregistrements du Dvorak, est-ce que vous avez des versions qui vous tiennent plus à cœur que d'autres, j'imagine?
Ouais, le Dvorak, c'est difficile de citer des versions parce qu'il y en a tellement qui sont géniales, toutes tellement différentes. Et le Dvorak avec Slava et Karajan, bien sûr, le Dvorak avec Yo-Yo Ma. Puis il y a tellement de...
Ouais, donc...
Et puis après, on remonte. Dans l'histoire, les violoncellistes un peu plus anciens, et c'est fascinant, je trouve. Et puis de voir, quand on écoute ces enregistrements et cette évolution finalement dans le temps, incroyable de voir aussi l'évolution du violoncelle, l'évolution du son aussi. Je sais pas si on remonte à Piatigorsky et Casals, c'est incroyable, c'est fascinant, je trouve.
Comment justement une œuvre évolue, ce qui est intéressant aussi, j'imagine, même à titre personnel, une œuvre que vous jouez quand vous avez commencé, au moment où vous êtes formé, vous avez formé, votre langage musical est né. Et aujourd'hui, vous l'enregistrez, de voir comment une œuvre également vit en vous, découvrir de par des rencontres, peut-être avec Jarvi, des instants, des magies que vous n'aviez pas perçues avant, ou l'inverse, au contraire, des choses qui vous... C'est important pour vous de voir justement comment une œuvre vit sur plusieurs années?
À titre personnel?
Oui, à titre personnel, bien sûr.
Oui, c'est fascinant parce que... Là, le disque sort, on l'a enregistré en live en mai dernier, donc ça fait presque un an. Et j'ai pas réécouté le disque. Une fois que le disque est fait, une fois que je réécoute après, je réécouterai dans quelques années, mais là, j'ai pas réécouté. Et je suis sûr que, là, je l'ai beaucoup joué récemment, je suis sûr que si je réécoute, il y a déjà des choses que je fais un peu différemment. Ou... C'est vraiment comme une photo à un moment donné. Et c'est curieux parce que, en même temps, bien sûr, on... une vie de musicien, on apprend toute sa vie, on mûrit une œuvre par rapport à ce qu'on vit dans sa vie personnelle, les rencontres qu'on fait, ce qu'on apprend avec d'autres partenaires, sur d'autres œuvres, tout a un lien. Et alors bien sûr, une œuvre mûrit, et en même temps, je suis toujours fasciné de voir, par exemple, on parlait de Rostropovitch tout à l'heure, qui a enregistré, je ne sais plus, 5 ou 6 versions, je ne sais plus exactement, mais... De réécouter, j'avais fait ça un jour, écouter chronologiquement juste un passage, par exemple le début, et de voir finalement sur une vie de musicien tel que Rostropovitch, qu'il a eu, qui est si riche et si intense, et qui était un homme exceptionnel, et de voir finalement, bien sûr que l'œuvre mûre, mais l'essence, l'intérieur, finalement le noyau du musicien. Même s'il a évolué, on retrouve toujours. C'est incroyable, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Et c'est pour ça aussi souvent que quand on dit. Quelqu'un m'a demandé récemment les suites de Bach, c'est pour quand ? Est-ce que vous attendrez, comme la plupart des violoncellistes, d'avoir atteint la maturité ? Je dis, mais la maturité, c'est quoi ? On mûrit, mais. Je sais pas, je les ferai peut-être dans un mois, comme peut-être dans 50 ans, comme peut-être déjà. Je crois qu'il faut juste se sentir prêt. Et là, effectivement, le Dvorak aussi, on peut dire, mais est-ce que c'est pas. Est-ce que vous n'êtes pas trop jeune pour enregistrer ce si grand concerto ? Je crois pas qu'il y ait d'âge. Ce qui est important, c'est de se sentir prêt, entre guillemets. Ressentir.
Naturellement.
Tout simplement, ouais.
Et comment justement vous évoluez dans. Comment vous avancez par rapport justement au répertoire ? C'est-à-dire que vous avez des idées en tête, plein de choses, c'est des projets qui arrivent soudainement, une partition qui va vous attirer plus qu'une autre. Enfin, comment vous avez expliqué pour cet exemple précis de cet enregistrement, mais pour les autres œuvres passées, pour celles sur lesquelles vous travaillez peut-être actuellement et les projets que vous avez, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des phases ? Est-ce que déjà dans votre tête vous avez vraiment des... Comment ça fonctionne ?
Il y a des phases, oui, c'est vrai. Même quand on écoute une œuvre, parfois on écoute une œuvre pendant un mois en boucle et puis après on ne peut plus l'entendre pendant... Alors évidemment, on a tous des phases. Moi, je suis... Alors, quand on caricature un peu, on dit toujours que je suis très instinctif. Et oui, j'ai un côté instinctif, ce qui ne veut pas dire que je ne réfléchis pas non plus, mais bon, je passe. Mais toujours est-il que j'écoute beaucoup mon instinct, ce que je ressens. Et... Pour moi, la musique, c'est ça. Bien sûr, on travaille, on répète, on travaille. Tout à l'heure, on parlait du son, le vibrato. On essaie de s'approcher un maximum de ce qu'on entend. On a des idées parfois, puis on n'arrive pas forcément à réaliser ce qu'on entend. Bien sûr, on travaille énormément, mais j'essaie vraiment d'écouter mon instinct aussi. Et alors, parler du choix du répertoire, alors... c'est vrai que j'arrive pas à jouer une œuvre que je n'aime pas ou que je comprends pas. Ou il y a des œuvres qu'on peut pas tout comprendre. Enfin, moi j'ai pas honte de dire que alors je vous vois venir, vous allez me demander de citer un exemple.
Évidemment. Ouais. Non mais c'est intéressant parce que
non, ou alors tout simplement des œuvres que voilà, une œuvre que je comprends pas maintenant, je comprendrai peut-être
dans 20 ans. C'est exactement ce que j'allais vous dire, il est possible.
Ou alors que je comprendrai jamais. Ça arrive, ou des œuvres contemporaines, un langage qui me parle moins, ou même sans parler de comprendre, qui me parle pas, qui me touche pas. Donc il faut avoir la sincérité et l'honnêteté par rapport au compositeur et par rapport aussi tout simplement à soi-même et au public.
À l'instant, dans votre vie, vous parliez tout à l'heure d'un album qui peut être un instantané d'une période.
Oui, bien sûr. Tout comme par exemple la sonate de Debussy pour violoncelle et piano, qui est une sonate géniale que j'ai énormément jouée. Depuis que je suis au conservatoire, dans les concours, dans les auditions ou dans les émissions de radio, parfois il faut une petite pièce de 10 minutes. C'est vrai que c'est une sonate que tous les violoncellistes en jouent beaucoup. Et il y a eu un moment où, un jour en concert, à la fin, je sais pas, j'arrivais plus. Pourtant, c'est une sonate géniale, hein, mais j'arrivais plus. Je me suis dit, ok, stop, ça fait, je sais pas, 3 ans ou 4 ans que je l'ai. Et quand on me la demande dans un récital, je dis non. Parce que pour l'instant, j'ai besoin de faire un break avec cette. Et puis un beau jour, je vais me dire, putain, mais c'est incroyable, comment j'ai pu pendant 5 ans ne pas. Mais voilà, je trouve qu'il faut, savoir. Et voilà, il y a certaines œuvres. Donc ça, pour moi, c'est important d'écouter ce que je ressens. Pas de me dire, j'ai pas envie, mais. Non, je trouve que. Là, on a tellement de chance de faire de la musique, de pouvoir s'exprimer avec la musique, de pouvoir la partager ensemble. Je trouve qu'il ne faut pas... Puis on a beau dire qu'il y a très peu de répertoire pour le violoncelle. Évidemment, je ne suis pas en train de dire, on a beaucoup moins de répertoire qu'un violoniste. Qu'avec un pianiste, on n'en parle pas. C'est vrai qu'un violoncelliste, à la fin de sa vie, qui a beaucoup joué en concert, il a quasiment tout joué du répertoire. Pianiste, il fait jamais le tour. C'était tellement riche, il y a tellement de choses. Mais on a aussi des œuvres géniales qui sont méconnues ou rarement jouées. Je trouve qu'il faut rester à l'écoute vraiment de ce qu'on sent. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de très important.
Ce côté instinctif dans votre éducation musicale, vous l'aviez au début, c'est-à-dire est-ce que non, parce qu'il y a effectivement une discipline dans l'éducation musicale. Est-ce que vous étiez comment justement, je parle vraiment vos toutes premières années, quoi.
J'ai des souvenirs. Mon professeur de violoncelle, moi j'ai débuté avec un professeur de violoncelle absolument génial qui s'appelle Augustin Lefebvre. Et c'est curieux parce que j'y repensais il y a vraiment très peu de temps, il y a quelques jours, et parce qu'on parlait des souvenirs d'enfance. Et c'est vrai que moi j'ai commencé le violoncelle à 4 ans et demi, donc avec Augustin, et de cette période. Bien sûr que j'ai des souvenirs en famille, mais la plupart de mes souvenirs vraiment qui sont ancrés en moi, et que ce soit des souvenirs de sensations, mais aussi vraiment visuels, la plupart de ces souvenirs-là sont avec le violoncelle et avec lui dans la classe. C'est pour dire qu'il m'a vraiment... Alors c'était un pédagogue génial, mais il adorait les enfants et il savait surtout comment transmettre sa passion du violoncelle. Et c'est incroyable. Et c'est vrai que probablement ça vient de là aussi, je pense, ce côté instinctif que j'ai de... Voilà, lui, il marchait au feeling et je me souviens, il parlait du swing en musique et il fallait sentir les choses. Et c'est vrai que c'était incroyable. Moi, j'attendais avec impatience le cours de violoncelle quand j'avais 5 ans. Enfin, c'est quand même du délire. C'est quand même rare. Pas pour dire que j'étais un gosse exceptionnel, mais juste pour dire que lui, sa manière de transmettre cette passion-là était exceptionnelle. Et tous les gosses de la classe, on attendait tous ce moment de la semaine avec impatience. Puis après, j'ai changé de professeur et je me souviens, tous les professeurs ont une approche différente. Et lui, il n'aimait pas trop ça. Donc, je ne sais pas, là, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Et il me reprochait toujours, justement, de pas vraiment regarder la partition et de faire. Il me disait, mais il faut que tu arrêtes de faire tout à l'oreille et de trucs, regarde la partition. Et c'est vrai que je faisais tout un peu, mais c'est comme ça que j'avais appris au ressenti. Je me souviens de ça très bien.
Thank you.
à quel moment, est-ce qu'il y a un moment précis où finalement ça a été une longue évolution, vous avez eu envie, ou la sensation, ou même sans vous en rendre compte, de basculer, c'est-à-dire de vous dire, voilà, je passe d'un enfant qui fait de la musique régulièrement à, ça y est, je passe de l'autre côté du... Est-ce que finalement vous en êtes jamais rendu compte? Il n'y a jamais eu vraiment, ça s'est fait progressivement, c'était déjà en vous?
Il n'y a jamais, eu de...
De déclic.
Je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, ça a toujours... Dès l'instant où j'ai eu ce violoncelle, ça sonne peut-être Fleur Bleue ou Histoire toute faite, mais dès l'instant où j'ai eu ce violoncelle, vraiment, j'ai senti, je sais pas, j'ai senti quelque chose de très fort. Je savais au fond de moi que, évidemment, à 4 ans et demi, on n'y pense pas, on ne sait de toute façon pas l'exprimer, et voilà, et je l'explique maintenant par rapport à ce que je ressentais. Je savais que, voilà, je passerais ma vie avec ce violoncelle, je ne savais ni comment, ni comment ça allait se concrétiser, matérialiser, ce que serait ma vie, putain, j'avais aucune idée. Et même à l'âge de 12 ans, je ne me suis pas dit je vais être soliste, je vais être... Non, j'avais tellement de plaisir. Et puis, il n'y a jamais eu vraiment de grosses décisions par rapport à ça, dans le sens... Enfin, par rapport à ça, je veux dire par rapport aux études, de savoir si je voulais en faire ma profession, savoir si j'allais... Moi, je suis né à Chambéry, donc aller étudier à Paris, au conservatoire, au CNSM, avec Philippe Muller. Puisque finalement... Donc moi, j'ai mon frère Renaud, violoniste, avait fait ce parcours avant, les cours par correspondance, partir à Paris, étudier. Donc pour moi, c'était quelque chose de naturel. Je ne me suis pas posé la question. Voilà, mon frère avait fait l'école par correspondance à partir de, je sais pas, la quatrième ou la troisième. Voilà. Puis moi, quand j'ai eu l'âge, voilà, j'ai fait l'école par correspondance. Je suis parti travailler à Paris et ça s'est fait par étapes, bien sûr. Je dis, quand j'avais 12 ans, je travaillais pas 6 heures par jour, hein. J'allais jouer au foot avec les gosses du quartier, comme tous les enfants de mon âge. Je travaillais, mais j'ai eu une enfance vraiment absolument heureuse.
C'est pas l'angle du violoncelle. Vous enfermez pas à jouer 5 heures par jour.
C'est vrai que on dit toujours que j'ai les yeux un peu bridés, mais non, vous parliez pas de ça. Mais non, mais j'ai jamais été frustré. J'ai pas eu des parents qui m'enfermaient. J'ai eu des parents exceptionnels, et je pense que bien sûr, je suis conscient que j'ai reçu un don pour la musique. Je suis conscient que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait aussi des sacrifices. Il faut faire des choix aussi. Mais tout ça, ça représente, je ne sais pas en pourcentage, mais je pense que le plus important, c'est que c'est aussi ce que j'ai reçu de mes parents. Et je réalise aujourd'hui que je ne serais pas là aujourd'hui s'ils ne m'avaient pas donné tout ce qu'ils m'ont donné. Alors oui, j'ai jamais été poussé, martyrisé et donc frustré pendant mon enfance, parce que ils n'ont jamais eu ce comportement-là. Ils m'ont toujours soutenu et aidé à faire fait le maximum pour que je puisse développer ce don que j'avais eu et travailler dans de bonnes conditions. Et après, évidemment qu'il y a des jours où j'avais pas envie de travailler. C'est absolument normal comme parfois, dans la vie, on n'a pas envie d'aller au bureau le matin, se lever. Moi, parfois, aujourd'hui, il y a des jours où on n'a pas envie. C'est un sentiment très sain, je trouve.
Dans cette évolution quasi naturelle, parce que, comment intervient, j'allais dire, votre frère, qui fait le même métier que vous, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire, comment ça agit sur vos... c'est vous dès le début, c'est votre frère, donc c'est un lien de chair, de sang, etc. Ouais. Et avec tout ce que ça sous-entend, est-ce que... Et le fait justement de naître, d'être en musique, de vivre en musique, comment ça intervient? C'est aussi quelque chose, j'imagine, on ne réfléchit pas, on ne se dit pas mon frère, c'est au même titre qu'il y a des batailles de Polochon, j'imagine, mais c'est là. Comment ça se passe? Comment ça fait évoluer sa personnalité musicale, je ne parle pas uniquement quand vous jouez ensemble, évidemment, mais comment ça intervient avec le temps, même maintenant, avec le recul, j'allais dire? Comment vous...
Pour moi, ça a été une émulation immense, parce que. Des batailles de Polochon, oui, il y en a eu. En même temps, on a 5 ans de différence. Donc, c'est vrai que pendant mon enfance, jusqu'à ce qu'on se mette à jouer ensemble, on n'a pas passé tant de temps que ça ensemble. Puisque c'est 5 années de différence. En fin de compte, quand il est parti étudier à Paris, moi j'avais 9 ans. Donc j'étais toujours chez mes parents.
Les 5 ans de différence, quand on est jeune, c'est plus important. Ben
oui. Quand
on est
donc après, quand moi je suis parti à mon tour à Paris, lui à ce moment-là est parti étudier à Berlin, et quand moi je suis parti, quand lui est rentré habiter à Paris, moi je suis parti étudier à Vienne. Et ça, c'était à peu près le moment où on a commencé à jouer ensemble. Donc, on ne se connaissait pas. Non, ce n'est pas qu'on ne se connaissait pas. C'est qu'on s'est découvert sur, bien sûr, un autre plan, quand on a commencé à jouer ensemble. Et là, bon, on en a beaucoup parlé. Hein, c'était quelque chose d'immédiat. C'est une immense chance. Je pense que c'est vraiment un miracle de pouvoir partager ça avec son frère. Ce que vous disiez, les liens de chair, de sang, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Pas expliquer. Et alors, même si on n'a pas passé énormément de temps ensemble du fait de ces 5 ans de différence pendant notre enfance, pour moi c'était une émulation immense, une motivation. C'est vrai que j'étais à la maison, j'entends quand il était là le week-end et qu'il était déjà au Conservatoire de Paris et que moi j'étais encore à Chambéry, j'entendais travailler 6 heures par jour et bien sûr ça motive. Puis je l'entendais travailler, comment il travaillait, comment. Ça a été une motivation immense, oui, c'est sûr. Mmh. Et puis voilà, puis après les premiers concerts. Maintenant, effectivement, ces 5 années paraissent beaucoup moins grandes, mais à l'époque, les premiers concerts que j'ai faits avec lui avait déjà une expérience immense par rapport à moi qui commençais. Mmh. Donc, j'ai beaucoup appris avec Renaud. Et après, plus j'ai grandi et évidemment eu un tout petit peu plus d'expérience, après, il y a eu beaucoup plus d'échanges. Pas qu'il n'y avait pas d'échange au début, mais
plus intense ou plus...
Ouais, différemment. Différemment. Mais... Donc ouais, une immense motivation pour moi.
Dans cette éducation musicale, vous parlez de profs un peu emblématiques qui vous ont... est-ce que vous avez des idoles aussi, des héros de l'instrument? Est-ce que vous avez, quel rapport vous aviez par rapport, j'allais dire pas au côté people de l'instrument, mais c'est-à-dire est-ce que vous étiez... fan de Rostropovich ou je ne sais quel autre musicien, quel rapport vous aviez à l'histoire de la musique, aux enregistrements historiques, etc.
Rostropovich, j'ai découvert plus tard quand j'étais enfant. J'ai été bercé plutôt par. Ça correspond au disque qu'on vous offre quand vous êtes gosse. Et, les premiers enregistrements, c'était les trios de Brahms et les trios de Schubert par Stern, Istomin, Rose. Donc, ça, c'est vraiment des enregistrements qui ont bercé mon enfance. Trio de Schubert, je me souviens, je devais avoir 7 ou 8 ans, j'avais dit à mon frère un jour, on les jouera ensemble. C'est fou, je me souviens très très bien. Et puis Yo-Yo Ma, Jacqueline Dupré, c'était à l'époque où la vidéo du Elgar était sortie sur elle. Ça, j'avais 8 ou 9 ans, c'était pour mon anniversaire. Ça m'avait vraiment bouleversé. Bien sûr, à cet âge-là, on ne comprend pas, hein. mais
on ressent des choses.
Voilà, je ressentais cette intensité, ce feu qu'elle avait sur chaque note et cette urgence de vivre en même temps et de c'est alors bien sûr je connaissais pas l'histoire mais je le ressentais c'est vraiment une vidéo qui m'avait vraiment bouleversé et qui est de toute façon bouleversante. Léonard Rose pareil qui a un des premiers disques aussi que j'ai eu et qui représente beaucoup pour moi toujours aujourd'hui, son enregistrement avec Philadelphie et Eugène Normandie. Et Légit de Forêt, Chelomo, Bloch, Variation Rococo, Tchaïkovski. Ça, c'est un de mes disques préférés. Je trouve que c'est les plus belles versions d'ailleurs. Donc voilà, ça, ce sont vraiment les artistes qui ont bercé un peu mon enfance. Et après, bien sûr, j'ai découvert tous les autres grands violoncellistes, Rostropovich, Casals. Voilà, et puis tous les autres, Piatigorski bien sûr, voilà, je cite pas Fournier, Gendron, mais ça sont vraiment les enregistrements les premiers enregistrements que j'ai eu.
Aujourd'hui, maintenant que vous êtes sur le terrain de foot, j'allais dire, avec est-ce que vous êtes curieux de vos collègues, on va dire, est-ce que vous vous intéressez ou comment ça se passe? Il y a des rencontres évidemment qui se font parfois, j'imagine, vous croisez peut-être des amis, etc. Mais par rapport à votre instrument, est-ce que vous avez plutôt tendance à aller voir des confrères en concert, à écouter leurs disques, etc. Ou c'est plus en fonction, oui, parfois non, et du hasard?
Écouter les disques, pas forcément. Parce que c'est vrai que quand je suis à la maison, quand je suis en voyage, j'écoute pas forcément beaucoup de musique. Quand j'écoute de la musique à la maison, je mets plutôt un disque de jazz. Voilà, si je bois un bon verre de vin, quand je, tellement rare d'être à la maison, c'est vrai que ce sentiment, j'ai pas forcément envie d'écouter de musique classique. Par contre, au concert, oui, j'y vais très régulièrement, j'adore aller au concert, et je trouve qu'on y voit trop peu de musiciens d'ailleurs. Et j'adore aller écouter mes collègues, et j'ai toujours... c'est vraiment, je trouve, un peu une caractéristique de violoncelliste. Je trouve que les, enfin, je vois tous les violoncellistes que je connais bien, on a tous un bon rapport entre nous. On est, hier soir, j'étais avec Henri de Marquette, c'est un violoncelliste que j'adore, que j'admire depuis très longtemps, avec lequel j'entends très bien. Et j'adore voir Henri. Il y a deux semaines, j'étais allé écouter Heinrich Schiff, bien sûr, qui était mon professeur pendant 4 ans à Vienne, et qui jouait avec Christian Polterak, un jeune violoncelliste qui joue magnifiquement. J'ai un très très bon rapport avec mes collègues et j'adore aller les entendre.
Vous parlez de quand je suis chez moi, parfois je bois mon verre de vin et j'écoute du jazz. Alors quelles sont justement les musiques autres que celles que vous jouez ou le répertoire classique qui vous touche et que vous écoutez en jazz par exemple? Est-ce qu'il y a des...
Jazz, c'est vrai que j'écoute. J'ai découvert le jazz assez tôt et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais demandé à mes parents de débuter le piano. Alors tout simplement parce que je m'étais dit que j'allais. Étudier le piano.
Vous vouliez être qui? Bill Evans, Duke Ellington?
Non, pas.
Bill Hancock?
Non, j'avais pas. Je voulais. Non, c'était pas dans ce sens-là, mais j'avais envie d'apprendre le piano. Et finalement, j'ai passé mon prix de piano à Chambéry. Donc j'avais un niveau pas trop mauvais pour un deuxième instrument. Et je m'étais dit, en fait, le but c'était que je voulais ensuite apprendre le jazz pour pouvoir me faire un peu plaisir à la maison. Moi, bon. J'ai passé mon prix de piano, j'avais ces bases un peu techniques, et j'ai jamais appris le jazz, j'ai pas pris le temps de le faire, mais ça je sais que je le ferai un jour. Par le jazz...
Est-ce que vous êtes un sort de glouton de musique ou pas spécialement? C'est-à-dire, est-ce que chez vous avez écouté tout le temps ou le silence vous convient aussi souvent?
Non, il n'y a pas tout le temps de la musique. Mmh. Ah non, j'aime bien le silence aussi. Mmh. Le feu de cheminée et le silence, c'est aussi entendre le feu qui crépite ou la pluie. Non, j'aime le silence aussi. Je trouve que c'est apaisant. On est toujours tellement entouré de bruit ou de musique, hein, mais que ce soit... Je dis, quand on entend, je dis pas que la musique est du bruit. Non, mais quand c'est au restaurant, il y a tout le temps de la musique, que ce soit en fond sonore. Donc c'est vrai que le silence, ça fait du bien.
Alors, beau projet, parce que vous êtes instinctif. Qu'est-ce qui va sortir prochainement? Quels sont vos lubies du moment?
Votre dernière phrase me fait rire parce que mon projet pour l'instant c'est un bébé. Alors c'est pour ça quand vous dites qu'est-ce qui va sortir prochainement. Voilà, donc c'est probablement le projet qui prend le plus de place dans ma tête, dans mon corps. Et en ce moment j'ai du mal à penser à autre chose pour être tout à fait franc. Mais donc là bien sûr le Dvorak qui sort fin février, non, dans une semaine. Et puis bah le prochain gros projet important pour moi sera le prochain disque qui sortira en janvier prochain avec Valérie Gergiev et l'orchestre du Mariinsky qu'on a enregistré là en décembre dernier. Donc ça sera le prochain gros projet important pour moi avec la concertante de Prokofiev, symphonie de Prokofiev et les variations rococo de Tchaïkovski.
D'autres envies sinon proches, enfin actuellement ou en enregistrement ou pas?
D'autres, moi j'ai toujours plein, mais voilà, je suis pas du genre à en parler tant que ça se fait pas. Donc.
Et sur scène, dans les prochains concerts les...
Alors sur scène, le prochain concert, prochain mois, pas mal de concerts de Dvorak. Et puis, je me réjouis à la fin du mois, parce que ça fait depuis 3, bien 3 mois, j'ai pas fait de concert de musique de chambre, mais c'est vrai que là ça me manque. Donc là fin février on va se retrouver avec Franck Bralet, Gérard Cossé et mon frère et je me réjouis de faire 4 concerts ensemble et j'ai hâte. Ouais.
Merci Gauthier Capuçon.
Merci à vous.
Rencontre par Marc Zisman.